بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Donc on est arrivé. On est toujours dans le chapitre de Sujud al-Sahu, donc la prosternation de l'oubli, dans Kitab al-Salah, donc dans le livre Taysir al-Fiqh al-Muyassar, min al-Kitab wa sunnah. Donc on continue, il dit al-Mas'ala al-Thalitha, la troisième question, Mata yusan, c'est-à-dire quand est-ce qu'il est recommandé, et non pas obligatoire, de faire les deux prosternations de l'oubli. Yusan nu Sujud al-Sahu idha ata bi qawlin mashru'in fi ghayri mahallihi sahwan. Donc il dit ici, il est légiféré, c'est-à-dire il est recommandé, de faire la prosternation de l'oubli, quand il dit une parole qui est à la base légiférée dans la prière, mais il l'a dit en dehors de sa place. Comme par exemple de lire le Coran dans l'inclinaison ou la prosternation, ou alors le fait de dire le tashahud dans, quand on est debout. مع الإتيان بالقول المشروع في ذلك الموضع كأن يقرأ في الركوع مع قوله سبحان ربي العظيم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين رواه مسلم. Donc ils disent bien sûr à condition qu'avec ça il ait fait déjà le dhikr qui est légiféré dans l'endroit, par exemple dans la prosternation il a dit سبحان ربي الأعلى, mais après par inadvertance il a lu le Coran alors que c'est pas l'endroit pour le faire. Donc à la fin, il rajoute deux prosternations, conformément au hadith qui dit quand l'un d'entre vous oublie, qu'il fasse deux prosternations. Ça, c'est dans Sahih Muslim. Al-mas'alatu rabi'a mawdi'uhu wa sifatuhu. La quatrième question, c'est quand est-ce que on se prosterne pendant les prosternations de l'oubli et comment on le fait. Awwalan mawdi'uhu. La rayba anna al-ahadith waradat fi mawdi' as-sujudi ala qismayn. Donc, c'est-à-dire, il n'y a aucun doute que les hadiths qui concernent ce sujet, ils montrent que la prosternation de l'oubli, elle est, c'est-à-dire les hadiths qui parlent du moment auquel on se prosterne, prosternation de l'oubli, elles sont de deux sortes. Qismun dalla ala mashru'iyyatihi qabla as-salam, wal qismul akharu dalla ala mashru'iyyatihi ba'da as-salam. Une partie des hadiths, elle montre qu'il est légiféré de le faire avant les salutations finales, et une autre partie des hadiths, elle montre qu'il faut le faire après les salutations finales. ولهذا قال بعض المحققين إن المصلي مخير إن شاء سجد قبل السلام أو بعده. Et c'est pour ça que certains authentificateurs muhaqqiqin parmi les ulama ils ont dit en fait ça revient au choix de la personne. Si elle veut, elle se prosterne avant les salutations et si elle veut, elle le fait après. Donc là ce qui veut dire ici c'est quel que soit le cas, que ce soit un doute ou un ajout ou un manque. لأن الأحاديث وردت بكلا الأمرين, parce que dans les hadiths il y a les deux. فَلَوْ سَجَدَ لِكُلِّنْ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ جَزْ. Donc quelle que soit la situation, s'il se prosterne avant ou après le salam, c'est permis. قَالَ الزُّهْرِ كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ السُّجُودُ قَبْلَ السَّلَامِ. Là ici c'est une parole d'Ibn Shihab al-Zuhri, rahimahullah, donc le shir de l'imam Malik, un des tabi'in, qui disait la dernière كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ, c'est-à-dire c'est comme s'il disait ici ça a été abrogé. C'est-à-dire la dernière chose qu'ils ont pratiquée, c'est de faire le sujoud avant salam. Mais si vous regardez les paroles des fuqaha dans les livres de fiqh, tout ça, on trouve les paroles, elles sont nombreuses. Il y a certains ulama, ils disent le sujoud, de sujoud sahou, dans tous les cas, c'est avant le salam. D'autres, ils disent dans tous les cas, c'est après le salam. Et d'autres, ils disent, ils essayent, c'est-à-dire par rapport au hadith. Ils ont détaillé, dans ce hadith-là, on voit que c'est un doute, donc il a fait avant, dans tel, on voit que c'est un ajout, donc il a fait après. Et donc la parole pour regrouper un peu tout ça, c'est comme il dit ici, c'est que de toute façon, que tu le fasses avant ou après, c'est permis. Thaniyan, sifatu sujoudi sahou. Deuxièmement, comment on fait la prosternation de l'oubli. سجدتين كسجود الصلاة يكبر في كل سجدة للسجود وللرفع منه ثم يسلم. Donc ces deux prosternations qui sont comme les prosternations de la prière. Donc il dit le takbir à chaque fois qu'il se prosterne et quand il se relève de la prosternation. Et après il dit les salutations finales.
وذهب بعضهم إلى أنه يتشهد إذا سجد للسهو بعد السلام لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أحاديث حسنة بمجموعها كما قال الحافظ ابن حجر.
Il dit, et certains d'entre eux, ils ont dit qu'ils répètent le tashahoud s'il fait les deux prosternations après le salam. Donc c'est-à-dire il a fait son tashahoud, il a dit son salam et il doit refaire deux prosternations. Certains ulama, ils disent, il refait encore le tashahoud. Donc c'est pas tous les ulama, il dit ici c'est certains ulama, parce que ça a été cité dans trois hadiths qui sont bimajmu'iha, c'est-à-dire si on les prend toutes ensemble, elles atteignent le degré de hasan, c'est-à-dire d'authentique, comme il l'a dit Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Donc il cite ici comme quoi ça, cette parole elle est dans Fath al-Bari, cette parole d'Ibn Hajar. Fath al-Bari c'est son explication de Sahih al-Bukhari. Al-Mas'alatul Khamisa, sujoud al-Tilawa, la cinquième question c'est la prosternation pendant la récitation du Coran. أولا مشروعيته وحكمه وهو مشروع عند تلاوة الآيات التي وردت فيها السجدات واستماعها. Donc quand est-ce qu'il est légiféré et quel est son statut? Donc c'est légiféré quand on lit les versets à propos desquels il a été rapporté ces prosternations et quand aussi on les écoute. Donc c'est pour celui qui les lit et pour celui qui les écoute.
قال ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته متفق عليه.
Donc ici il cite la parole de Abdullah ibn Omar رضي الله عنهما qui dit le prophète صلى الله عليه وسلم il nous récitait une sourate dans laquelle il y avait une prosternation et il se prosternait et nous nous prosternions avec lui à tel point que l'un d'entre nous ne trouvait pas un endroit où poser son front. Ça c'est dans les deux sahih.
Wa huwa sunnatun 'ala as-sahih wa laysa biwajib faqad qara'a Zayd ibn Thabit 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa an-najm falam yasjud fiha fadalla 'ala 'adam al-wujub.
Il disait que la vie authentique c'est que c'est simplement préférable et c'est pas obligatoire car Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu a lu la sourate an-najm devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans laquelle il y a une prosternation. Et ils ne se sont pas prosternés. Ça, c'est dans Sahih al-Bukhari. Ce qui montre donc l'acte du prophète ici montre que ce n'est pas obligatoire.
وَيُشْرَعُ سُجُودُ التِّلَاوَةِ فِي حَقِّ الْقَارِئِ وَالْمُسْتَمِعِ إِذَا قَرَأَ آيَةَ سَجْدَةٍ فِي الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجِهَا.
Il dit il est légiféré de faire cette prosternation de la lecture pour celui qui récite le Coran et pour celui qui écoute le Coran. Donc pour celui qui récite, même si c'est dans sa prière. Ou alors que ce soit en dehors de la prière.
لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك عندما كان يقرأ السجدة ولسجود الصحابة معه كما مر في حديث ابن عمر فيسجد ونسجد معه.
Donc parce que le prophète صلى الله عليه وسلم c'est ce qu'il faisait et comme on l'a vu dans le hadith d'Ibn Omar précédent.
والدليل على مشروعيته في الصلاة ما رواه البخاري ومسلم عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه رواه مسلم.
Donc il dit ici aussi la preuve comme quoi c'est légiféré dans la prière, c'est ce qui a été rapporté de Abi Rafi' qui a dit j'ai prié avec Abu Huraira al-Atama. Al-Atama en fait c'est un des noms de la prière de l'Aïcha. Et il a lu la sourate Idha Sama Unshaqat et il s'est prosterné. Et à la fin, donc Abu Rafi' il a dit à Abu Huraira, il lui a dit c'est quoi cet acte? Et il lui a dit je l'ai fait derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu al-Qasim, et je ne cesserai de le faire jusqu'à ce que je le retrouve. Ça c'est dans les deux sahih.
فإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع لأن المستمع تبع فيها للقارئ.
Il dit et si celui qui récite ne se prosterne pas, celui qui écoute la récitation ne se prosterne pas parce que lui il suit celui qui récite.
Wali hadith Zayd ibn Thabit al-Mutaqaddim fa inna Zaydan lam yasjud fa lam yasjud an-nabi sallallahu alayhi wa sallam.
Et aussi conformément au hadith de Zayd ibn Thabit qu'on a lu tout à l'heure, comme quoi Zayd il a lu et il ne s'est pas prosterné, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ne s'est pas prosterné non plus. ثانيا فضلهم deuxièmement son mérite عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد يعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فلهم جنة وأمرت بالسجود فأبيت فللنار رواه مسلم. Quant à son mérite, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le fils d'Adam lit donc une sourate où il y a une prosternation et qu'il se prosterne, le shaitan, donc c'est-à-dire le diable, il s'écarte, il s'isole et il pleure et il dit malheur à moi, le fils d'Adam a été ordonné de se prosterner, il s'est prosterné et donc il a le paradis, et moi j'ai été ordonné de me prosterner, j'ai refusé et donc j'ai l'enfer. Thalithan sifatuhu wa kayfiyatuhu. Troisièmement, comment on fait, c'est-à-dire la description de cette prosternation. Yasjudu sajdatan wahidatan wa yukabbiru idha sajad. Donc il se prosterne une seule fois en disant le takbir avant de se prosterner. Wa yaqulu fi sujudihi subhana rabbiyal a'la kama yaqulu fi sujudi s-salah. Et il dit le même dhikr que dans le sujud de la prière. Wa yaqulu aydan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li. Donc il rajoute ce deuxième dhikr que je viens de citer. Wa in qala sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fala ba's. Et s'il rajoute donc ce troisième dhikr qu'ils ont cité ici, quand il dit sajada wajhi lilladhi khalaqahu, c'est-à-dire ma face s'est prosternée à celui qui l'a créé, wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi, et on a tiré son ouïe et sa vue par sa force. Ça c'est dans les sunan de Tirmidhi, et ils disent ici que Sheikh al-Albani rahimahullah il a authentifié. Rabi'an mawadi'u sujoud at-tilawati fi al-Qur'an. Donc quatrièmement, ici il cite les différentes sourates où il faut se prosterner dans le Coran. Donc je vais les citer comme ça, celui qui veut les reprendre, bah, il écoute l'enregistrement. Mawadi'u sujoud al-Qur'an al-Karim 15 mawdi'an wa hiya 'ala at-tartib. Donc ils sont au nombre de 15. Il dit donc dans l'ordre akhir sourate al-A'raf, donc à la fin de la sourate al-A'raf, la 7e, sourate ar-Ra'd, la sourate ar-Ra'd, sourate an-Nahl, sourate al-Isra, sourate Maryam, أول سورة الحج آخر سورة الحج سورة الفرقان سورة النبل سورة السجدة سورة فصلت آخر سورة النجم سورة الانشقاق آخر سورة العلق والخامسة عشرة هي سجدة سورة صاد وهي سجدة الشكر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليست صاد من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. Ici cite comme quoi la 15e, c'est la prosternation dans la sourate Sad. Il dit, mais en fait, c'est une prosternation de reconnaissance qu'on fait. Et c'est pas une prosternation qui est voulue pour le verset comme dans les autres. Donc il cite ici une parole d'Ibn Abbas où il dit, Sad n'est pas parmi les prosternations Al-Azaim, c'est-à-dire les qui sont, comment expliquer, Min Azaim Is-Sujud, c'est-à-dire des prosternations qui sont imposées. Et j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam la faire. Ça c'est dans Sahih al-Bukhari. المسألة السادسة سجود الشكر. Donc la troisième sorte de sujoud qui est légiférée dans la sixième question, c'est la prosternation pour la reconnaissance, le shukr. يستحب لمن وردت عليه نعمة أو دفعت عنه نقمة أو بشر بما يسره أن يخر ساجدا لله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يشترط فيها استقبال القبلة ولكن إن استقبلها فهو أفضل. Donc il est recommandé à celui qui à qui il arrive un bienfait, ou alors de qui est repoussé un méfait, c'est-à-dire un malheur, ou alors qu'on lui donne une bonne nouvelle, on lui annonce la bonne nouvelle de quelque chose qui le rend heureux, qu'il tombe prosterné pour Allah Azza wa Jal, poursuivi du prophète, c'est-à-dire il suit en cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça n'est pas une condition dedans de faire face à la Qibla dans cette prosternation, mais s'il le fait, c'est-à-dire si il fait face à la Qibla dans cette prosternation, c'est mieux. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله فعن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى وكذا فعله الصحابة رضوان الله عليهم. Il dit le prophète le faisait sallallahu alayhi wa sallam. Donc le compagnon Abu Bakr radiallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on l'annonçait de quelque chose ou quand il lui arrivait quelque chose qui le réjouissait, il tombait prosterné pour Allah et par reconnaissance envers Allah tabaraka wa ta'ala. Ici, il dit dans le Tahriz que c'est dans les Sunan, notamment d'Abi Daoud, et que Cheikh Al-Albani dit que c'est Hassan, c'est-à-dire que c'est authentique. Et les Sahaba, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont fait aussi. وحكم هذا السجود حكم سجود التلاوة وكذا صفته وكيفيته. Donc ce sujoud, cette prosternation, elle a le même statut que la statue, que la prosternation pendant la lecture du Coran, et elle se fait de la même façon. الباب السابع في صلاة الجماعة وفيه مسائل. Le septième sous-chapitre, donc dans le chapitre de la prière, c'est la prière en groupe, صلاة الجماعة. Donc المسألة الأولى فضل صلاة الجماعة وحكمها. La première question, c'est le mérite de la prière en groupe et son statut. أولا فضلها صلاة الجماعة في المساجد شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام. Donc la prière en groupe, ça fait partie des cultes apparents de la religion de l'islam. واتفق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس في المساجد من أعظم الطاعات. Et les musulmans sont tous d'accord sur le fait que ces cinq prières dans les mosquées sont parmi les plus grandes des actes d'adoration envers Allah et des actes d'obéissance. فقد شرع الله لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة منها الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف. Allah il a légiféré à cette communauté de se regrouper dans des moments précis. Parmi ces moments, il y a les cinq prières, et la prière du vendredi, et la prière des deux fêtes, et la prière de l'éclipse. وأعظم الاجتماعات وأهمها الاجتماع بعرفة الذي يشير إلى وحدة الأمة الإسلامية في عقائدها وعباداتها وشعائر دينها. Et le plus grand des rassemblements qu'Allah a légiféré, c'est le rassemblement du jour de Arafah, pendant le pèlerinage, donc le 9e jour du mois de Dhul-Hijjah, qui représente en fait l'unité de la communauté musulmane dans son dogme, dans ses adorations et dans ses cultes. وشرعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام لأجل مصالح المسلمين. Et ces regroupements des musulmans, ils ont été légiférés pour un bien, المصالح, pour les biens des musulmans. ففيها التواصل بينهم. Parce que dedans il y a le fait de التواصل, c'est-à-dire un lien entre les musulmans. وتفقد بعضهم أحوال بعض. Et le fait que les uns se soucient des affaires des autres. وغير ذلك مما يهم الأمة الإسلامية على اختلاف شعوبها وقبائلها. Et d'autres bienfaits encore parmi les choses qui concernent cette communauté et qui est composée de différents peuples, de différentes tribus. كما قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Donc ici c'est le verset qui dit: Ô vous les gens, nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons fait en peuple et en tribu, afin que vous entreconnaissiez. Et le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux. C'est-à-dire le plus pieux d'entre vous. Atqakum. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها وبين فضلها وعظيم أجرها. Et le prophète a encouragé à faire la prière en groupe, et il a montré son mérite. فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ يعني الفرد بسبعين وعشرين درجة. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la prière en groupe est meilleure que celle de, c'est-à-dire est supérieure à celle de l'individu seul de 27 degrés. Ça c'est dans les deux sahih. وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. Et dans l'autre hadith il dit: la prière de l'homme dans le groupe avec al-jama'a est multipliée par rapport à sa prière seule dans sa maison ou dans le marché de 25 degrés, c'est-à-dire 25 multiples. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. الحديث. Le hadith il continue en disant: c'est parce que l'homme, quand il fait bien ses ablutions, sa ahsan al-wudu, il les fait à la perfection, et qu'ensuite il sort à la mosquée et que rien ne le fait sortir si ce n'est la prière, il ne fait pas un pas sans qu'il ne lui soit élevé, sans qu'il ne soit élevé par ce pas d'un degré, et que ne lui soit enlevé un péché. Et quand il prie, فإذا صلى, quand il a prié, les anges ne cessent de prier sur lui. Tusalli alayhi, c'est-à-dire la salat des anges, on a déjà expliqué. C'est-à-dire, il demande pardon, il demande à Allah de le pardonner, tant qu'il est dans l'endroit où il a prié, al-musalla. Ça c'est dans Sahih al-Bukhari. Thaniyan hukmuha.
صلاة الجماعة واجبة في الصلوات الخمس وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة.
Il dit la prière en groupe est obligatoire pendant les cinq prières et c'est ce qu'a montré le Coran et la Sunna.
فمن الكتاب قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك والأمر للوجوب وإذا كان ذلك مع الخوف فمن الأمن أولى.
Donc la preuve dans le Coran, c'est dans Sourate An-Nisa, donc le verset qui concerne la prière de la peur, c'est-à-dire la prière qu'on fait en temps de guerre, quand les ennemis sont proches, donc où il est dit, lorsque tu es entre eux, et que tu te lèves pour la prière, alors qu'un groupe d'entre eux se lève avec toi. C'est-à-dire, Allah il a ordonné dans ce verset que la prière elle se fasse en groupe. Alaykoum salam wa rahmatullah. Or, c'est la prière de Al-Khawf, c'est Salat Al-Khawf. Donc ce qu'ils disent ici, en fait, où elle est la preuve dans le verset, c'est que si Allah il a ordonné le groupe pendant la prière de la peur, alors quand on est en sécurité, Al-Amn, alors c'est encore plus à même d'être obligatoire.
Wa min as-sunnah hadith Abi Hurayra radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam athqalu as-salati 'ala al-munafiqina salatu al-isha'i wa salatu al-fajr.
Et le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière la plus lourde pour les hypocrites, al-munafiqin, sont la prière de l'Aïcha et la prière du Fajr. Et s'ils savaient ce qu'il y a dans ces deux prières, ils iraient même en rampant. Et j'ai pensé à ordonner qu'on fasse la prière et qu'ensuite j'ordonne à quelqu'un de prier devant les gens, c'est-à-dire d'être imam.
ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
Et qu'ensuite je parte avec des hommes qui ont du bois pour faire du feu et que je brûle les maisons de ceux qui n'assistent pas à la prière en groupe. Ça c'est dans les deux sahih.
فدل الحديث على وجوب الصلاة الجماعة.
Donc ce hadith montre l'obligation de la prière en groupe.
وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أولا وصف المتخلفين عنها بالنفاق والمتخلف عن السنة لا يعد منافقا.
Premièrement, en fait ils vont expliquer ici en quoi le hadith montre que la prière en groupe est obligatoire. Premièrement, c'est parce qu'il a qualifié ceux qui ne la faisaient pas, il les a qualifiés de caractérisés par un nifaq, l'hypocrisie. Or, celui qui délaisse une sunna, donc sunna dans le sens des fuqaha, c'est-à-dire un acte simplement préférable, on ne l'appelle pas munafiq. Dans la religion, il n'est pas appelé munafiq.
فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ تَخَلَّفُوا عَنْ
وَاجِبُ. Ce qui montre qu'ils ont délaissé quelque chose d'obligatoire.
ثَانِيًا أَنَّهُ هَمَّ بِعُقُوبَتِهِمْ عَلَى التَّخَلُّفِ عَنْهَا.
Deuxièmement, c'est qu'il a pensé à les châtier sur le fait de ne pas avoir été la prière.
وَالْعُقُوبَةُ إِنَّمَا تَكُونُ عَلَى تَرْكِ وَاجِبُ.
Et ce châtiment, la punition, elle ne peut être que pour avoir délaissé une obligation.
وَإِنَّمَا مَنَعَهُ مِنْ تَنْفِيذِ الْعُقُوبَةِ أَنَّهُ لَا يُعَاقِبُ بِالنَّارِ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
Et ce qui l'a empêché d'appliquer ce châtiment, c'est que nul ne châtie avec le feu si ce n'est Allah عز وجل.
وَقِيلَ مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ مَنْ فِي الْبُيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذُرِّيَّةِ الَّذِينَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ.
Et il a été dit, donc d'autres savants ont dit que ce qui l'a empêché de le faire, d'appliquer ce qu'il voulait faire, quelqu'un peut mettre la lumière. C'est les femmes et les enfants qui sont dans les maisons en fait, de ceux qui ne vont pas à la prière, et pour qui la prière en groupe n'est pas obligatoire, donc eux ils n'avaient pas à subir de punition. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas appliqué ce qu'il voulait faire.
وَمِنْهَا أن رجلا خفيف البصر ليس له قائد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته فقال أتسمع النداء قال نعم قال أجب لا أجد لك رخصة.
Et dans un autre hadith qui est dans Sahih Muslim, un homme qui avait une faible vue, il dit ici خفيف البصر, c'est-à-dire il avait une faible vue et il avait personne pour le guider dans son chemin, il a demandé la permission au prophète صلى الله عليه وسلم de prier dans sa maison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: est-ce que tu entends l'appel à la prière? Il a dit oui. Il a dit: alors réponds, car je ne te trouve pas de rukhsa. C'est-à-dire, rukhsa, c'est C'est ce qui est, ce qui est, c'est une permission, une, comment on appelle ça en français? Quand par exemple, toi, t'es obligé de faire quelque chose, mais spécialement, on te donne, voilà, une genre d'excuse. Alors ça, c'est une permission, entre guillemets, de ne pas faire ce qui est obligatoire. Il lui a dit, pour toi, je ne trouve pas de, entre guillemets, donc d'excuse ou de permission. ولقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب pardon فلا صلاة له إلا من عذر. Et le hadith qui dit, celui qui entend l'appel à la prière et qui n'y répond pas, celui-là n'a pas de prière sauf s'il a une excuse. Ça c'est dans les sunan. Ils disent c'est que c'est authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. ولقول ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. Et la parole de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu qui disait Ra'aytuna, Ra'aytuna, littéralement c'est-à-dire je nous ai vus, c'est-à-dire je voyais nous-mêmes, c'est-à-dire en fait là il relate leur situation, la situation de lui-même et des compagnons. Il dit, c'est comme s'il disait, notre situation c'était que nul ne manque la prière en groupe si ce n'est un munafiq, c'est-à-dire un hypocrite dont l'hypocrisie est connue. C'est-à-dire à quelqu'un qui est connu pour être un munafiq. Ça c'est dans Sahih Muslim. Et donc c'est obligatoire aux hommes et non pas aux femmes ni aux enfants qui n'ont pas encore atteint la puberté. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, en ce qui concerne les femmes, leurs maisons sont meilleures pour elles. Ça c'est dans les sunan aussi et authentifié aussi par Cheikh Al-Albani. ولا مانع من حضور النساء الجماعة في المسجد مع التستر والصيانة وأمن الفتنة بإذن الزوج. Et il n'y a pas de mal à ce que les femmes aillent à la prière en groupe, à la mosquée, mais à condition d'être bien cachées et préservées, et qu'il n'y ait pas de fitna, et avec la permission du mari. وتجب الجماعة في المسجد على من تلزمه على الصحيح. Et il est obligatoire de prier à la mosquée. Pour celui qui est, c'est-à-dire à la mantalzemu, c'est-à-dire celui qui a une mosquée à côté de lui, celui envers qui l'obligation est dirigée, l'obligation elle est d'être à la mosquée. En fait, pourquoi ici il dit ça? Ça c'est intéressant à savoir. C'est parce que dans ceux qui disent, il y a deux questions. Il y a la question de savoir est-ce qu'il est obligatoire de prier en groupe. Donc là il y a une divergence. Et il y a la question de savoir est-ce qu'il est obligatoire de prier à la mosquée. Donc c'est deux questions différentes. Certains ils vont dire carrément t'as le droit de prier seul, ta prière obligatoire. En fait ici ils nous ont montré que c'est obligatoire et Inch'Allah c'est la vie le plus fort. Mais comme je vous ai dit, quand je connais des divergences dans les sujets, je vous les signale pour pas qu'après toi par exemple tu peux rencontrer un frère qui a étudié l'islam et qui a un avis autre que le tien et toi tu le traites de par exemple de laxiste ou d'innovateur et tout ou de fasir, alors que son avis c'est un avis qui est considéré chez les ulama. Et peut-être même des fois c'est l'avis de la majorité des ulama, mais toi c'est pas l'avis qu'on t'a appris à toi. Donc le fiqh c'est pas une question à innovation, c'est une question à divergence. C'est-à-dire un frère tu peux tomber Allah a'lim sur quelqu'un et il va pas à la mosquée, pourquoi? Parce qu'il est convaincu que c'est pas obligatoire. C'est possible ou c'est pas possible? C'est possible. Donc si on t'a jamais dit qu'il y a une divergence là-dedans, toi tu vas dire c'est un fasir, c'est un munafir, ou alors c'est un mubtadir, tu vas commencer à l'insulter, alors que lui en fait il a suivi une opinion qui est connue depuis 1400 ans, et qui est reconnue depuis 1400 ans, à tel point que c'est dans des livres de fiqh, on lit que c'est l'opinion de la majorité en fait, que c'est simplement préférable de prier à la mosquée. Même si les preuves ici on les a vues comme quoi elles sont assez fortes sur le fait que c'est obligatoire à chaque personne de prier en groupe. Mais pour vous dire que il y a la question de prier en groupe et la question de prier à la mosquée. Donc certains ulama ils disent il est obligatoire de prier en groupe mais pas à la mosquée. C'est-à-dire que si par exemple tu es chez toi et vous êtes 10, eh ben tu peux prier chez toi. Ça je veux dire pour certains ulama, c'est pas ce qu'ils disent ici justement. Ici ils disent bien l'opinion authentique c'est que c'est obligatoire en groupe et à la mosquée. Ça veut dire même si vous êtes 10 chez toi, si la mosquée est à côté, il faut que vous sortiez pour aller prier à la mosquée. Mais il y a d'autres paroles chez les ulama, et ça il faut le savoir. Comme par exemple, ça a été ramené notamment de l'imam Ahmed, rahimahullah, comme quoi il avait des invités chez lui, et quand l'heure de la prière elle est venue, l'un d'entre eux il a dit on va à la mosquée, il a dit non, on prie en groupe chez moi. Donc c'est-à-dire c'est une opinion reconnue, Et ici, ils disent l'opinion authentique. Donc, si on a bien suivi, c'est que c'est obligatoire de prier en groupe et c'est obligatoire de prier à la mosquée. Donc, retenez bien que c'est deux questions différentes. On ne sait jamais si vous tombez sur un autre cours. Il faut bien toujours avoir à l'esprit qu'il y a deux questions. Il y a la question, est-ce qu'il faut prier en groupe ? Il y a une divergence dessus. Et il y a la question, est-ce qu'il faut prier à la mosquée ? Et il y a une divergence dessus. Donc là, ils nous disent, il faut prier en groupe et à la mosquée. وَمَنْ تَرَكَ الْجَمَاعَةَ وَصَلَّ وَحْدَهُ بِلَا عُذْرٍ صَحَّتْ صَلَاتُهُ لَكِنَّهُ آثِمٌ لِتَرْكِ الْوَاجِبِ. Donc ils disent ici, conformément à ce qu'ils ont dit jusqu'à maintenant, que celui qui délaisse le groupe et qui prie seul sans excuse, sa prière elle est valable, mais il est pécheur, il porte un péché, parce qu'il a délaissé quelque chose d'obligatoire. المسألة الثانية إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلىها أولا. La deuxième question, si un homme il rentre à la mosquée et il a déjà fait la prière, est-ce qu'il lui est obligatoire de prier avec le groupe la prière qu'il a déjà priée? لا تجب عليه إعادتها مع الجماعة. Ils disent ici, il ne lui est pas obligatoire de la refaire avec le groupe. وإنما يسن له ذلك. Mais simplement ça lui est recommandé et non pas obligatoire. والأولى فرض والثانية نافلة. Et sa première prière, c'est son fard, c'est-à-dire celle qu'il avait faite toute seule, pour une raison quelconque. C'était son fard, elle est considérée comme son obligation. Et cette deuxième qu'il va faire avec le groupe, c'est nafila, c'est-à-dire c'est une nafila, c'est une prière surérogatoire.
لحديث أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها قلت فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإن لك فإنها لك نافلة.
Dans le hadith rapporté par Abu Dharr رضي الله عنه, il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم il lui a dit, comment feras-tu lorsqu'il te viendra un jour où les al-umara, c'est-à-dire les gouverneurs, les chefs, retarderont la prière de son heure. Et Abu Dharr il a dit, alors qu'est-ce que tu m'ordonnes de faire si ça m'arrive? Et effectivement, subhanallah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prédit, chez Banu Umayya, donc la première dynastie qu'il y a eu dans l'islam après les califes, certains retardaient la prière de son heure. Ça vous pouvez voir un peu, par exemple dans le Muwatta, il y a des hadiths qui citent ça. Donc il lui a dit, qu'est-ce que tu m'ordonnes si ça me vient, comme tu le dis. Il lui a dit, fais la prière à son heure, et si tu la fais avec eux, c'est-à-dire si ensuite tu adraktaha, c'est-à-dire tu l'attrapes avec eux, entre guillemets, tu la rattrapes avec eux, alors prie avec eux, et c'est une nafila pour toi, c'est une prière surérogatoire. Ça c'est dans Sahih Muslim.
ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين اعتزلا صلاة الجماعة في المسجد إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة.
Ça c'est dans les Sunan. Il dit aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à deux hommes qui n'avaient pas prié en groupe mais ils avaient prié chez eux. Il leur a dit, quand vous priez chez vous, fi rihalikum, al-rihal c'est la maison en fait. Quand vous priez chez vous et qu'ensuite vous venez à la mosquée où il y a un groupe, alors priez avec le groupe, et c'est pour vous une prière surérogatoire. C'est-à-dire, si par exemple ça peut arriver cette situation, tu restes pas assis comme ça dans la mosquée. Le mieux c'est que tu rentres avec eux, et tu fais cette prière avec l'intention que ce soit une nafila. Ça c'est dans les sunan, et ils disent que Cheikh Albani dit c'est sahih, c'est authentique. Ici on peut faire la parenthèse sur la question sur laquelle tout le monde se bat, quand l'été y arrive, et ça arrive bientôt. C'est parce que les mosquées, donc il y en a qui prient le Maghreb, tout de suite ils font l'Aïcha. Donc nous, qu'est-ce qu'on est censé faire? Donc premièrement, ce qu'on est censé faire, c'est comme Allah il a dit, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Donc moi, à ma connaissance, quand on a appelé des gens de ahla dhikr, ils nous ont dit que c'était valable. D'autres, ils ont dit non. Mais même ceux qui te disent non, qu'est-ce qu'ils te conseillent? Prie avec les al-jama'a, l'Aïcha. Si toi tu considères, et c'est ton avis à toi, que la prière n'est pas valable, ou qu'eux ils n'ont pas à faire ça. Eux ils ont fait un ijtihad. Ils n'ont pas ramené une bid'a dans la religion. Ils ont fait un ijtihad par rapport au hadith qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois il avait prié les prières, il les a réunies, le dhuhr et l'asr, et il a fait le maghreb l'aïcha. Et dans certaines des chaînes de transmission, Ibn Abbas radiallahu anhuma, il explique, il dit c'est parce qu'il a voulu montrer, il a voulu enlever la gêne à sa communauté. Donc certains ulama d'Ahl al-Hadith, ça vous le trouvez dans Fath al-Bari, comme notamment Mohamed ibn Sirin, rahimahullah, ils disent que ça veut dire que, occasionnellement, quand il y a une gêne, le musulman il peut regrouper ses prières. Donc certains ils disent que là la gêne elle est là tous les jours, et les gens qui travaillent ça leur cause une gêne, donc on regroupe. Donc à la limite c'est un effort. Et moi, à ma connaissance, comme je vous dis, moi j'ai entendu que Cheikh Al-Uthaymeen il l'a dit ça pour les gens de la Hollande. Donc à ma connaissance, Cheikh Al-Uthaymeen c'est pas quelqu'un dont on va dire il dit n'importe quoi ou c'est un innovateur. Donc il y a un savant reconnu qui l'a dit. Moi je l'ai entendu de Cheikh Ali Touajeri à Médine, et il nous a rapporté ça de Cheikh Al-Uthaymeen comme quoi il l'a dit pour les gens de la Hollande. Donc en tout cas, si toi t'es pas d'accord, prie avec eux la prière de l'Aïcha. Fais-en une nafila pour toi et après refais l'Aïcha chez toi. Comme ça, ni t'as fait de fitna, c'est-à-dire ni tu t'es séparé du groupe des musulmans, ni tu leur as fait ressentir qu'eux ils sont dans une faute et toi t'es pas dans une faute et toi t'as raison, et ni, selon ton opinion à toi, ni t'as sorti la prière de son heure. Donc c'est toujours la hikma, c'est-à-dire faites l'Aïcha avec eux au moins, et si vous considérez que c'est pas valable, et dans votre i'tiqad à vous c'est pas valable, faites-en une nafila avec la jama'a et après vous priez chez vous à l'heure. Mais quant au fait de se lever comme ça et de partir en leur faisant comprendre que vous êtes dans l'erreur et nous on a raison, ça c'est pas, ça fait pas partie du bon comportement, ni de la hikma ni de la sagesse. Ici il dit al-mas'alatu thalitha aqallu ma tan'aqidu bihi al-jama'a, la troisième question, le plus petit nombre par lequel et un groupe, al-jama'a, c'est-à-dire la prière du groupe. Aqallu al-jama'ati ithnani bila khilaf, li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam li Malik ibn al-Huwayrith idha hadarat as-salatu fa'adhina thumma uqima wa li ummukuma akbarukuma. Donc il dit sans divergence, le plus petit groupe c'est deux. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Malik ibn al-Huwayrith. Donc Malik ibn al-Huwayrith en fait, radiallahu anhu, c'est un compagnon qui est venu avec un groupe de gens de sa tribu pour apprendre l'islam auprès du prophète, et il raconte qu'ils étaient restés auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam quelques jours, et il a même dit wa kana rafiqan rahiman, il dit le prophète il était doux et il était clément, et leur à la fin quand il a vu ça, leur hadith il est notamment dans Sahih al-Bukhari, quand il a vu qu'ils voulaient rentrer chez eux, il leur a donné des conseils, notamment que le hadith que vous connaissez tous, Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez prié. En fait, ce n'est qu'un morceau des paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Malik ibn al-Huwayrith et à son groupe. Et donc, parmi ce qu'il leur a dit, il lui a dit aussi, et là il s'est adressé à deux personnes, il lui a dit quand la prière arrive, alors faites l'appel à la prière, et ensuite faites l'iqama, et que le plus vieux d'entre vous fasse l'imam. Et en fait, il a dit d'entre vous deux. Donc, ce qui prouve que les deux mérite un appel à prière et un iqama, donc c'est un groupe. Ça c'est dans les deux sahih, ce hadith. C'est à quelle heure le maghrib exactement? 45. Al-mas'alatu al-rabi'a bima tudraku al-jama'a, la quatrième question, par quoi on attrape entre guillemets un groupe, c'est-à-dire par quoi on est considéré comme ayant prié avec le groupe. Tudraku al-jama'atu bi-idraki raka'atin min as-salah, ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع لحديث أبي هريرة إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا من ولا تعدوها شيئا ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. C'est parce que le verbe adda, j'ai du mal et je voulais le lire comme il faut. Donc il dit ولا تعدوها شيئا ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. Donc ça c'est dans les sunan, ils disent, c'est authentifié aussi par Cheikh Al-Albani. Ils disent que la prière elle s'attrape avec une raka'a, et la raka'a elle s'attrape avec le ruku'a. C'est-à-dire que si tu es arrivé dans le ruku' et tu as eu le temps de l'itmi'nan, qui est une condition, c'est-à-dire tu as eu le temps d'être serein dans le ruku', c'est-à-dire c'est pas juste tu as fait ça et tu t'es relevé, mais tu as eu le ruku' complet, entre guillemets, c'est-à-dire le ruku' complet en ce qui te concerne, tu t'as été serein et tu l'as fait avec calme, alors là t'as attrapé la raka'a avec le groupe. Il dit le hadith, quand vous venez à la prière et que nous sommes en prosternation, alors prosternez-vous et ne le comptez pas. La ta'adduha shay'an, c'est-à-dire cette raka'a, vous ne la comptez pas. Et celui, ومن أدرك ركعة, et celui qui attrape une raka'a a attrapé la prière. Ça c'est dans les sunnahs, comme je vous ai dit. Donc regarde, en fait ce qu'il veut dire ici, c'est que dans le hadith, il a dit que celui qui arrive au sujoud, il lui a dit de ne pas compter cette raka'a. Donc ce qui prouve que le minimum c'est le ruku'a. Al-mas'ala al-khamisa, man yu'zaru bitark al-jama'a. La cinquième question, qui est excusé de délaisser la prière en groupe? يُعْذَرُ الْمُسْلِمُ بِتَرْكِ الْجَمَاعَةِ فِي الْأَحْوَالِ التَّالِيَةِ. Donc le musulman est excusé s'il délaisse le groupe dans la prière dans les cas suivants. أولاً المريض مرضاً يلحق منه مشقة لو ذهب إلى الجماعة. Un malade qui aurait un grand mal à aller à la prière, c'est-à-dire s'il va à la prière, ça va lui faire une مشقة, c'est-à-dire un grand mal. لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. Conformément au verset qui dit il n'y a pas de mal pour l'aveugle ou pour le boiteux ou pour le malade. Même si ce verset il parle pas de salat al-jama, il parle d'autre chose, mais de façon générale ça montre que le malade il est excusé dans les règles de l'islam. ولأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. Et le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam, quand il était malade, il ne priait pas à la mosquée, il leur a dit ordonnez à Abu Bakr qu'il fasse imam pour les gens. Ça c'est dans les sahih. ولقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. Et dans la parole d'Ibn Mas'ud qu'on a cité tout à l'heure, quand elle est complète, il a dit il n'y avait qu'un hypocrite dont l'hypocrisie est connue qui manquait la prière en groupe ou un malade. Donc c'est-à-dire dans le sens où il est excusé. Ou alors celui qui craint l'arrivée de la maladie s'il sort à la mosquée puisque il est comme le malade. ثانيا المدافع أحد الأخبثين أو من بحضرة طعام محتاج إليه. Deuxièmement, celui qui repousse un des deux akhbath, c'est-à-dire qui est en train de se retenir d'aller aux toilettes, soit de l'urine ou des excréments. Ou alors celui qui est en présence d'une nourriture qui est prête et dont il a besoin. Li hadith Aisha marfu'an la salata bihadrati ta'am wa la huwa yudafi'u al-akhbathayn. Conformément au hadith de Aisha où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de prière en présence de la nourriture ni pour celui qui pousse les deux akhbath, c'est-à-dire les deux, l'urine et les excréments. Ça c'est dans Sahih Muslim. Thalithan, man lahu da'i'un yarjuhu aw yakhafu diya'u malihi aw waqt aw qutihi aw dararan fihi li hadith Ibn Abbas marfu'an man sami'a an-nida'a falam yamna'uhu min ittiba'ihi 'udhrun qalu fama al-'udhru ya rasul Allah qala khawfun aw marad لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. Il dit ici, celui qui a il a quelque chose qu'il craint de perdre, comme de l'argent par exemple, ou alors de la nourriture, ou alors il craint qu'il y ait une nuisance qui arrive à son bien ou à sa nourriture. Car dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui entend l'appel et qui n'a pas d'excuse qui le retient d'y aller. Et les gens ils l'ont interrompu, ils ont dit au messager d'Allah c'est quoi l'excuse? Il a dit une peur ou une maladie. Alors celui-là, c'est-à-dire celui qui n'a pas une de ces deux excuses, Allah n'accepte pas la prière qu'il a priée. وَكَذَا كُلُّ خَائِفٍ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ أَهْلِهِ أَوْ وَلَدِهِ فَإِنَّهُ يُعْذَرُ بِتَرْكِ الْجَمَاعَةِ فَإِنَّ الْخَوْفَ عُذْرٌ. Ou celui qui a peur pour lui-même ou pour ses biens ou sa famille ou ses enfants, celui-là il est excusé parce que la peur c'est une excuse. رابعا حصول الأذى بمطر ووحل وثلج وجديد أو ريح باردة شديدة بليلة مظلمة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. Ou alors tout ce qui est climatique comme la neige ou alors un vent et qui avec de l'eau qui mouille les vêtements dans une nuit sombre ou la pluie, c'est-à-dire la pluie abondante. Donc dans le hadith, Ibn Omar radiallahu anhuma, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait à celui qui fait l'appel à la prière, quand on était dans une nuit froide et qu'il y avait de la pluie, donc il a dit une nuit froide et avec la pluie, il disait, c'est-à-dire il ordonnait à celui qui fait l'appel à la prière de dire, priez dans vos, chez vous. Al-Rihal, c'est-à-dire Al-Maskan. C'est-à-dire, il disait à celui qui fait l'appel de crier ça. Priez dans vos maisons. Ça, c'est dans les deux sahih. Khamisan, حصول المشقة بتطويل الإمام. لأن رجلا صلى مع معاذ رضي الله عنه ثم انفرد فصلى وحده لما طول معاذ فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم حين أخبره. Cinquièmement, celui donc, qui délaisse le groupe parce que l'imam y récite trop longtemps et que ça lui cause un mal. Puisque dans le hadith, il y a un homme qui avait prié avec Mu'adh ibn Jabal, donc Mu'adh, comme c'est rapporté dans le hadith, il priait l'Aïcha avec son peuple, avec le prophète, et après il le priait avec les gens qui habitaient autour de chez lui. Donc il refaisait imam avec eux. Donc un homme, il avait prié avec Mu'adh et ensuite il a quitté le groupe. Et il a prié tout seul. Parce qu'il a trouvé que Mu'adh, il récitait trop longtemps. Et quand ils ont rapporté l'affaire au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il a réprimandé Mu'adh, mais il n'a rien dit au bonhomme, à l'homme en question qui avait délaissé le groupe. Donc si c'était un mal, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait blâmé. Ça, c'est dans Sahih Muslim. Sadisan, khawfu fawati rafaqati fi safar, lima fi dhalika min inshighali qalbi idha intadhara jama'a aw dakhala fiha. Ou alors celui qui a peur de perdre les gens avec qui il est en voyage, s'il rentre dans un groupe quand il est dans la prière, parce que ça va occuper son cœur, s'il rentre dans la prière, parce qu'il a peur de perdre donc les gens qui sont avec lui en voyage. Sabi'an, al-khawf min mawti qaribihi, wa huwa ghayru hadirin ma'ah, kan yakuna qaribuhu fi siyaq al-mawt, wa ahabba an yakuna ma'ahu yulaqinuhu ash-shahadata wa nahwi dhalik. Celui qui a peur de la mort d'un proche qui n'est pas auprès de lui. Par exemple, un proche, il est fi siyaq al-maut, c'est-à-dire il est proche de la mort, et donc lui, il veut être avec lui, notamment pour lui dire la shahada, pour lui répéter de dire la shahada. Celui-là, il est excusé s'il délaisse le groupe pour être avec la personne qui va mourir. Faminan mulazamatu gharimillah. Là, ils disent ici, donc moi, c'est ce que j'ai compris, c'est que c'est celui qui est, c'est-à-dire son créancier, il s'accroche à lui pour lui demander de rendre sa dette. Et lui, il n'a rien à lui rendre. Donc celui-là, il peut délaisser le groupe. Lima yuhiquhu min al-adhiyati bi mutalabati al-gharim. Bon, je vais laisser comme ça, je préfère pas le traduire parce que honnêtement, j'ai pas saisi le sens ici. C'est quelle heure ? المسألة السادسة sixièmement إعادة الجماعة في المسجد الواحد. Sixième question, le fait de refaire un groupe pour la prière dans une même mosquée. إذا تأخر البعض عن حضور جماعة المسجد مع الإمام الراتب وفاتتهم الصلاة فيصح أن يصلوا جماعة ثانية في المسجد نفسه. Il dit, quand un groupe de gens ils se sont attardés et ils n'ont pas prié avec l'imam habituel dans la mosquée avec le groupe, et que la prière allait passer, il leur est valable de prier un deuxième groupe dans la même mosquée. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. Donc vis-à-vis de l'aspect général du hadith qui dit, la prière de l'homme avec un homme, c'est-à-dire en groupe, est plus pure que sa prière seule. Ça, c'est dans les sunnans. Ils disent, c'est authentifié notamment parmi les muhaddithines qui ont authentifié ce hadith, Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini, c'était un des chouyukhs de l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari disait, Mastaskhartu nafsi amama ahadin ghayra Ali ibn al-Madini, pour montrer qui c'est. Il a dit, je ne me suis pas senti petit devant personne, si ce n'est devant Ali ibn al-Madini. ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي حضر إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة من يتصدق على هذا فيصلي معه فقام أحد القوم فصلى مع الرجل. Et aussi dans le hadith où un homme il était venu en retard à la prière et il avait raté la prière en groupe. Et le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit aux compagnons lequel d'entre vous lui fait une aumône et prie avec lui. Donc ça fait un deuxième groupe. Et un d'entre eux s'est levé et il a prié avec lui. Donc là c'est une preuve dans le sens où il y a une deuxième jama'a, puisqu'ils étaient deux dans la même mosquée. Donc en tout cas, ils disent le hadith, il est notamment dans les sunan de Tirmidhi et authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. En tout cas, ça c'est pas une question sur laquelle il faut se battre, parce qu'on voit toujours les frères, ils s'embrouillent sur ça. Celui qui est convaincu qu'il peut prier un deuxième groupe, il prie. Celui qui il trouve qu'il faut prier à la maison, il prie pas, il attend de rentrer à la maison. C'est pas une question autour de laquelle il faut se disputer. وكذلك إذا كان المسجد مسجد سوق أو طريق وما أشبه ذلك فلا بأس بإعادة الجماعة فيه وبخاصة إذا لم يكن لهذا المسجد إمام راتب ويتردد عليه أهل السوق والمرة. Ils disent notamment quand c'est une mosquée qui est dans un marché ou un chemin ou ce genre de mosquée, comme des fois où vous trouvez par exemple sur la route du pèlerinage des petites mosquées comme ça, où en fait les gens y passent continuellement. Et dit là, il n'y a pas de mal à refaire le groupe dedans, surtout quand c'est une mosquée qui n'a pas un imam, ce qu'on appelle imam ratib, c'est-à-dire un imam fixe et régulier. Et les gens du marché et les passagers, ils y repassent tout le temps. Donc là, il n'y a pas de mal. أما إذا كان المسجد فيه جماعتان أو أكثر دائما وعلى نحو مستمر واتخذ الناس ذلك عادة فإنه لا يجوز. Il dit, mais quand c'est une mosquée où il y a deux groupes tout le temps et que ça devient une habitude et que les gens ils en font une habitude, ça c'est interdit. إذ لم يعرف ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Il dit, puis ça n'a pas été connu à l'époque du prophète et de ses compagnons. ولما فيه من تفرق الكلمة والدعوة للكسل والتواني عن حضور جماعة الأمة مع الإمام الراتب. Et aussi parce que ça divise les musulmans et ça appelle à la fainéantise. Parce que pourquoi? Parce que les gens ils vont s'habituer. Ils se disent bon ben c'est rien si je rate le premier groupe, j'ai toujours le deuxième. وربما كان ذلك مدعاة لتأخير الصلاة عن أول وقتها. Il dit aussi ça peut amener à retarder la prière du début de son heure. المسألة السابعة حكم الصلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة. Septième question. Donc là, le jugement de le statut de la prière quand la prière al-salat al-maktouba, c'est-à-dire une des cinq prières, on a fait l'iqama pour une des cinq prières. إذا شرع المؤذن في الإقامة لصلاة الفريضة فلا يجوز لأحد أن يبتدئ صلاة نافلة فيتشاغل بنافلة يقيمها وحده عن أداء فريضة تقيمها الجماعة. Il dit donc quand celui qui fait l'appel il commence à dire l'iqama pour la prière obligatoire, il n'est pas autorisé de commencer une nouvelle prière surérogatoire parce qu'il ne peut pas s'occuper par une prière qui est surérogatoire seule et délaisser le fait d'accomplir la prière obligatoire en groupe. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. Et dans le hadith il a dit صلى الله عليه وسلم quand on fait l'iqama pour la prière il n'y a pas de prière sauf la prière prescrite. Ça c'est dans Sahih Muslim. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم لصلاة الصبح فقال له أتصلي الصبح أربعا. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un homme prier alors que le muadzin, il est en train de faire l'iqama pour la prière du subh, il lui a dit, donc il l'a blâmé, il a ankara alihi, c'est-à-dire il a blâmé son geste en disant, est-ce que tu pries le subh en 4 raka'a? Donc ça c'est pas une question dans le sens, il veut savoir, on appelle ça su'al inkar, c'est une fausse question, c'est une question pour blâmer la personne en fait, ça aussi c'est dans Sahih Muslim. أما إذا شرع المؤذن في الإقامة بعد شروع المتنفل في صلاته فإنه يتمها خفيفة لإدراك فضيلة تكبيرة الإحرام والمبادرة إلى الدخول في الفريضة. Il dit mais si la personne elle est en train de faire l'iqama et lui est déjà en train de faire sa nafila, il dit là, il la complète, mais il la fait légère pour essayer d'avoir takbiratul ihram, c'est-à-dire le premier takbir avec lui, avec l'imam. Et pour s'empresser de rentrer dans al-farida. Wa dhahaba ba'd ahli al-ilm ila annahu idha kana fi ar-rak'ati al-ula fa innahu yaqta'uha wa in kana fi ar-rak'ati ath-thaniya fa innahu yutimmuha khafifatan wa yalhaqu bil-jama'a. Et certains ulama ont dit, donc ils disent ici, certains ulama ont dit que s'il est dans sa première raka'a, dans sa nafila, là il la coupe, il la laisse. Mais s'il est dans sa deuxième, alors il la complète légère. Et là, pour pouvoir aller avec le groupe. Et là, il faut attirer l'attention sur le fait que il faut souvent, en fait, on croit qu'on va pas finir la nafila, mais si tu te contentes que de ce qui est obligatoire dans la prière, tu peux largement la finir. Ça veut dire, s'il il est en train de faire l'iqama, et toi par exemple, tu es dans le qiyam, dans ta deuxième raka'a, bah, va-t'en pas réciter surat al-Baqara et dire 10 tasbih dans le ruku' et dans le sujud. Tu dis un tasbih, tu finis juste la fatiha, c'est ça l'obligation, et tu dis un tasbih dans le ruku' et dans le sujud, et même pour la majorité des ulama, tu dis même pas la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu dis juste le tashahud, c'est ça qui est obligatoire. Comme il a dit Ibn Mas'ud à qui il a enseigné le tashahoud, il lui a dit à la fin du tashahoud, quand tu as dit ça, faqad tammat salatuk, ta prière est complète. Donc si tu fais ça, ça va prendre 30 secondes, c'est pas méchant. On va s'arrêter là, inshallah, comme ça celui qui veut faire les ablutions ou aller aux toilettes, ou il peut faire ça, inshallah. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه